Bonjour, je suis Olivier, bienvenue dans le podcast Nin Nartri. Aujourd'hui, je vais résumer et critiquer le livre « Les secrets d'un esprit millionnaire de thé ». Have Acker est un livre de développement personnel orienté argent et comportement financier. Son objectif est moins d'enseigner des techniques d'investissement que de faire comprendre pourquoi certaines personnes semblent accumuler la richesse plus facilement que d'autres. La thèse centrale est que chacun possède un plan financier intérieur, un ensemble de croyances et d'habitudes souvent inconscientes qui influencent les décisions. Le rapport au risque, la capacité à recevoir et à conserver l'argent. Acker soutient que ce plan se forme tôt, notamment via l'éducation et l'environnement familial, puis se manifeste à travers des schémas répétitifs de réussite ou d'auto-sabotage. Le livre propose une démarche en deux temps prendre conscience de ces programmations, puis les réviser afin d'aligner pensée, émotion et action avec une mentalité de richesse. Le style est direct, énergique et ponctué d'exercices invitant le lecteur à passer rapidement de la prise de conscience à l'action. Je vais vous présenter les points clés de ce livre. Premièrement, le plan financier intérieur comme thermostat de la réussite. La notion la plus structurante du livre est celle d'un plan financier intérieur, comparable à un thermostat qui ramène spontanément une personne vers une zone de revenus, de dette et de confort financier familière. Dans cette perspective, gagner plus ne suffit pas si la programmation mentale reste inchangée. Les comportements tendent à annuler les gains par de mauvaises décisions, des dépenses impulsives ou un manque de constance. Acker met donc l'accent sur la causalité intérieure, les résultats financiers seraient le reflet de schémas mentaux stables, davantage que le simple produit de la chance ou des compétences. L'intérêt de ce cadre est qu'il explique pourquoi des améliorations ponctuelles ne se maintiennent pas et pourquoi certains répètent des cycles similaires malgré des opportunités. Le livre invite le lecteur à identifier ses associations émotionnelles avec l'argent, ses phrases automatiques et ses peurs, afin de détecter le réglage actuel du thermostat. La démarche vise ensuite à relever ce réglage en installant des croyances plus favorables, non pas comme simple pensée positive, mais comme base d'un changement de comportement répétable. Deuxièmement, origine des croyances sur l'argent enfance, modèle et conditionnement. Une part importante du message consiste à relier la relation à l'argent à des influences précoces. Acker explique que les idées entendues dans l'enfance, les attitudes des parents, ainsi que les expériences marquantes autour des dépenses, de la pénurie ou de l'abondance, forme un scénario intérieur qui guide la vie adulte. Sans accuser ou moraliser, il propose de considérer ces influences comme des programmes appris, donc modifiables. Cette approche a une fonction pratique, tant que le lecteur attribue ses difficultés uniquement au monde extérieur, il reste sans levier direct. En revanche, comprendre l'origine de certaines réactions permet de les observer puis de les remplacer. Le livre encourage ainsi une prise de responsabilité centrée sur le pouvoir d'agir plutôt que sur la culpabilité. Il met aussi en garde contre le fait de reproduire les modèles financiers de son entourage par loyauté inconsciente ou par peur de se différencier. En rendant ces mécanismes visibles, Acker cherche à transformer un sujet souvent chargé d'émotions en un objet de travail concret, au même titre qu'une compétence à développer. Et troisièmement, différence de mentalité entre riches, classe moyenne et pauvre, le livre est connu pour opposer des manières de penser typiques, non pour juger des personnes, mais pour donner au lecteur des repères comportementaux. Acker insiste sur le fait que la richesse durable dépend de choix récurrents, comment on interprète les problèmes, comment on se positionne face aux opportunités et comment on gère les responsabilités. Il présente des contrastes de postures. Par exemple, une orientation vers les possibilités plutôt que vers les limites, une préférence pour la création de valeur et la croissance plutôt que pour le statu quo, et une attention à la façon dont on se parle intérieurement à propos de l'argent. L'objectif est d'imiter des cadres mentaux plus productifs, en observant leurs conséquences concrètes sur la prise de décision. Cette section fonctionne comme un miroir, le lecteur peut reconnaître ses réflexes, puis choisir une alternative plus alignée avec ses objectifs financiers. Acker relie ses mentalités à des actions quotidiennes négociées, apprendre, vendre ses compétences, prendre des risques mesurés et maintenir une discipline. Il ne prétend pas donner une formule universelle, mais propose des distinctions simples pour rompre avec des habitudes qui entretiennent la stagnation. Quatrièmement, réécrire le programme conscience, nouvelles déclarations et actions cohérentes, Acker ne se limite pas à des idées. Il met en avant un processus de reprogrammation qui combine prise de conscience et mise en pratique. La logique est que les croyances se renforcent par la répétition et qu'elles peuvent donc être affaiblies puis remplacées par de nouveaux automatismes. Le livre encourage le lecteur à repérer les pensées limitantes dès qu'elles apparaissent, à les contester, puis à installer des formulations plus utiles. Mais la thèse insiste surtout sur la cohérence actionnelle, une nouvelle croyance ne devient crédible que si elle est suivie d'actes. C'est pourquoi l'ouvrage propose des exercices et des engagements concrets, destinés à créer des preuves internes que le changement est possible. Le style est volontairement direct, avec une idée centrale parlée de richesse, sans agir on ne produit pas de résultats. La méthode vise donc à transformer l'intention en comportements observables, comme la gestion plus consciente de ses choix, la recherche d'opportunités, ou la pratique de décisions financières plus alignées. Ce couplage entre mental et action est présenté comme le moyen de stabiliser un nouveau réglage du thermostat financier. En dernier lieu, responsabilité personnelle et rapport à la peur, au risque et à la valeur, un fil conducteur du livre est la responsabilité personnelle. Non comme une injonction morale, mais comme une stratégie pour reprendre le contrôle. Eckhart soutient que blâmer le contexte, même lorsqu'il est difficile, réduit la marge de manœuvre. À l'inverse, se concentrer sur ce qui dépend de soi permet de progresser. Il aborde aussi la peur, notamment la peur de manquer, de se tromper ou de réussir. Ces peurs influencent la prise de risque, la capacité à se vendre, à demander une rémunération plus élevée ou à saisir une opportunité. Le livre associe la richesse à une relation plus mature, au risque qu'il ne s'agit pas d'être imprudent, mais d'être prêt à agir malgré l'inconfort. La question de la valeur personnelle traverse également l'approche. Si une personne se perçoit comme peu digne, elle aura tendance à refuser, saboter ou sous-facturer. Eckhart propose de renforcer une identité plus compatible avec l'abondance en développant des choix répétés de responsabilité, de décision et de persévérance. Cette orientation rend l'ouvrage motivant pour certains, même si elle peut sembler simplificatrice, à ceux qui attendent une analyse économique détaillée. En conclusion, Les secrets d'un esprit millionnaire s'adressent à toute personne qui veut améliorer sa relation à l'argent et comprendre les mécanismes psychologiques qui influencent ses résultats financiers. Il conviendra particulièrement aux lecteurs qui se sentent bloqués malgré des efforts ou qui constatent des cycles de réussite puis de recul. Comme si une limite invisible les ramenait en arrière. Son bénéfice principal est de fournir un cadre simple pour relier croyances, émotions et comportements. Puis pour passer à l'action à travers des exercices et des engagements concrets. Le livre peut aussi aider à clarifier des sujets souvent sensibles à la responsabilité, le mérite, la peur de manquer ou la difficulté à recevoir. Par rapport à des ouvrages de finances plus techniques, il se distingue en mettant le projecteur sur le jeu intérieur de la richesse. C'est dire la façon dont on se programme et dont on se conditionne. Cette orientation le rapproche des classiques du développement personnel financier, tout en proposant un style plus direct et orienté mis en pratique. Les lecteurs qui cherchent des stratégies d'investissement détaillées devront compléter avec d'autres ressources. Mais ceux qui veulent travailler les fondations mentales et comportementales y trouveront un outil structurant et souvent stimulant. Si vous souhaitez soutenir T. Harv Eker, vous pouvez acheter le livre via le lien Amazon que j'ai fourni dans la description du podcast. Après avoir lu le livre, faites-moi savoir ce que vous en pensez et partagez vos réflexions. À bientôt.